Donc, ce matin, j'ai donné comme titre au message que je veux partager avec vous. Il n'y a pas juste la justification. Il y a plus que la justification. Et puis, peut-être qu'on va commencer avec un mot de prière, puis ensuite on va plonger ensemble. Seigneur, grand Dieu, encore, on veut te dire merci pour ton grand salut. Et merci aussi parce que, Seigneur, tu es présent pour faire partie de nos vies, de ton Église. Et c'est ta présence, Seigneur, qui nous rend sécure, qui nous fortifie, qui nous encourage. Ta grâce envers nous, le sang précieux de Jésus qui couvre toute notre vie du départ à la fin. Seigneur, pour ce grand salut, on veut te dire merci. Puis ce matin, on prie que tu puisses nous assister lorsqu'on ouvre ta parole, Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Partage, Seigneur, les paroles que tu veux partager aux frères et sœurs. Encourage, fortifie, corrige, enseigne par ton Esprit Saint. Merci au Dieu. Amen. Donc, il y a plus que la justification. La justification est vraiment une doctrine glorieuse. Vous pouvez tourner en 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Je vais vous donner quelques versets là, puis après ça, on va revenir vers la fin de notre course que nous allons faire ensemble. C'est un de mes textes préférés que j'aime relire souvent. Donc, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, qui souligne le beau cadeau de la qu'est la justification. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais, la bonne nouvelle, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. La justification est le cadeau que Dieu offre par sa grâce aux pécheurs condamnés qui se confient en Jésus par la repentance et la foi. Jésus est le seul nom qui peut nous donner la justification, ce cadeau, cette transaction. C'est vraiment fabuleux. Vous imaginez, d'une petite illustration, vous êtes en prison et en attente pour votre exécution après avoir été condamné au supplice et à la mort pour vos péchés. Le jour approche. Et puis, un bon matin, vous attendez des pas qui arrivent à votre cellule, et puis la porte s'ouvre. Et les gardiens vous disent, « Monsieur, Madame, il n'y a plus aucune condamnation contre vous. Vous êtes libérés, vous pouvez partir. Le juge vous a déclaré juste. » Vous ne comprenez rien. C'est inimaginable. Vous vous pincez, vous pensez que vous êtes en train de rêver. Vous vous dites, mais comment cela peut-il être? Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous apprenez après quelque temps que non seulement que votre casier judiciaire, dans votre casier judiciaire, il n'y a plus aucune trace de transgression, mais à l'opposé, vous avez à votre compte, dans votre dossier, une justice qui est remplie d'honneur, mise sur votre compte. Voyez, c'est un peu une image de la justification que le pécheur condamné reçoit entièrement par grâce lorsqu'il se confie dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Les théologiens expliquent cette justice avec ce qu'il appelle la double imputation ou le glorieux échange. Ça va comme ceci, Dieu impute ou applique les péchés du coupable sur Jésus-Christ qui n'a plus ou point connu le péché, et lui satisfait la juste loi de Dieu en s'offrant volontairement pour subir la sentence à notre place par la mort sur la croix. Et Dieu impute ou applique la justice de son Fils, c'est-à-dire sa parfaite obéissance et sa sainteté sur celui qui est injuste et pécheur. C'est cet échange glorieux, c'est ce cadeau qu'un pécheur reçoit, la justification, un homme pécheur qui est déclaré juste devant Dieu. Cette justice est une transaction légale, positionnelle, qui est accordée par grâce seule, en Jésus seul. L'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais, voyez-vous, il y a plus que la justification. Autant beau et merveilleux que ce cadeau est pour celui qui se confie en Jésus, la justification n'est pas la fin en soi de la vie chrétienne. Mais la justification est le début de la vie chrétienne. La justification est ce certificat qui nous accorde maintenant la grâce de pouvoir avoir une relation avec le Dieu de l'univers, le Dieu trois fois saint. La justification, c'est le cadeau qui nous ouvre la porte pour que nous venions dans la présence de Dieu et que nous le découvrions. Et pour montrer cette importance ou ce désir que Dieu a de vouloir vous connaître, de vouloir me connaître, qu'il s'intéresse à vous, qu'il s'intéresse à moi, j'aimerais qu'on puisse faire un petit détour pour souligner cette importance. On va parler de quelque chose, puis après ça, de quelques choses ou de quelques étapes que Dieu a prises dans le cours de la rédemption pour les hommes, pour souligner cet effet. Donc, on retourne dans le jardin d'Éden. Quand Dieu créa l'homme, il le créa différemment de tous les animaux. Dieu créa l'homme et la femme à son image, au Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le fait que Dieu ait créé l'homme à son image ne veut pas dire qu'il a créé des petits dieux. Et ça ne veut pas dire non plus que Dieu a un corps matériel comme le nôtre. Dieu nous a donné un corps matériel pour vivre dans notre monde matériel. Dieu est esprit, la parole nous dit. Mais Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme à son image, avec une volonté, un intellect, des émotions, une conscience morale, un esprit éternel pour que nous puissions jouir d'une communion avec Dieu, l'auteur de la vie, notre Créateur. Et bien sûr, Dieu dans le jardin, dans le paradis terrestre, où il avait communion avec l'homme, il a mis un interdit par laquelle l'homme et la femme pouvaient montrer leur allégeance et leur amour envers Dieu, leur Créateur. Certains gens, des fois, mettent en question le fait que Dieu ait mis un interdit, mais je suis sûr que toute couple ici qui sont mariés ont des interdits les uns envers les autres. Hein? tu es à moi puis tu demeures à moi. Hein? C'est interdit que tu ailles trouver quelqu'un d'autre. Hein? C'est avec cet interdit que Dieu voulait que l'homme démontre son allégeance et son amour envers son Créateur. Et Dieu leur dit que de transgresser cet interdit leur mériterait la mort. Parce que de transgresser contre cet interdit, c'était de se rebeller contre le Dieu de l'univers, le Dieu Créateur, celui qui est l'Éternel. Vous connaissez l'histoire, Satan est venu puis a séduit Ève et Adam à transgresser contre Dieu en leur disant, Dieu a-t-il vraiment dit, mettant en question la parole de Dieu. En vrai, il les amenait à à douter et à questionner sur la véracité et l'autorité de la parole de Dieu et de son caractère en soi. Ce péché a apporté la mort, la souffrance et les ténèbres dans notre monde. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Certains disent, si Dieu existe et qu'il est si bon, pourquoi le monde est tant rempli de souffrance? Pourquoi est-ce que le monde souffre tant? Et mon ami, la parole nous déclare que nous sommes la cause de ces ténèbres qui existent dans ce monde. C'est le fruit de notre rébellion contre Dieu. Ce péché nous a séparés de Dieu. Ce péché a apporté la mort. Ce péché a donné la clé et l'autorité à Satan de prendre possession et de diriger notre monde. Dieu aurait pu tout arrêter à ce point-là et puis appliquer la justice, la mort. Tout aurait été fini. Mais dans sa bonté, Dieu avait un plan de salut pour nous. Un plan pour restaurer les hommes, un plan qui était pour lui coûter énormément cher pour nous réconcilier avec lui. La patience de Dieu et le fait que le monde fonctionne encore aujourd'hui et encore d'avant démontrent la patience et l'amour de Dieu envers les hommes. C'est ce que 2 Pierre nous dit dans le chapitre 3, que Dieu est patient avant de venir pour juger ce monde, désirant que tous parviennent à la repentance et découvrent le salut en Jésus. Donc Dieu a choisi certains gens qu'il a appelés à marcher par la foi pour ou avec qui, par lequel il accomplirait son plan de rédemption. Ces gens devinrent un peuple nombreux et ils devinrent esclaves dans le pays d'Égypte. Et cet esclavage est une image de ce que le péché apporte dans la vie des hommes et des femmes dans ce monde. Dieu vit la souffrance de son peuple, et il est venu, descendu pour délivrer son peuple. Il a apporté une grande victoire, une grande libération à travers son serviteur Moïse. Mais au début de ce voyage, pour aller vers la terre promise où coule le lait et le miel, Dieu a demandé quelque chose à son peuple. Au livre d'Exode, chapitre 25, verset 28, il dit ceci, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le cœur de Dieu, le désir de Dieu est de pouvoir vivre avec les hommes et de pouvoir vivre au milieu de son peuple. Exode 29, 45 à 46 nous dit, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habitez au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Est-ce que Dieu a délivré son peuple Israël de l'esclavage de l'Égypte simplement pour les emmener dans un pays où coule le lait et le miel, rempli de bon matériel, rempli d'une belle vie? Non. Dieu dit qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, pour avoir sa présence dans leur vie et pour qu'ils puissent jouir de la vie en abondance, la vie qui vient de Dieu même. Dieu veut une relation avec son peuple et Dieu veut une relation avec vous et moi. Ce sanctuaire est aussi appelé le tabernacle ou la tente d'assignation. Mais dans la Bible anglaise, puis dans certaines traductions que j'ai trouvées, elle est appelée aussi « the tent of meeting », c'est-à-dire la tente de la rencontre. Et je pense que certaines versions ont ça. Le tabernacle est appelé la tente de la rencontre. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple pour avoir un temps de rencontre, un temps de communion avec son peuple. Le dictionnaire biblique nous dit sur la tente de rencontre, le tabernacle, son but était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple et de procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion constant avec le Dieu saint. Le tabernacle ou la tente de la rencontre était environ 45 pieds de long, 15 pieds de large et 15 pieds de hauteur. Cette tente était divisée en deux parties. La première partie, qui est environ le deux tiers, était appelée le lieu saint. Elle était séparée avec un rideau. Et l'autre bord du rideau, la deuxième partie, était appelée le lieu très saint, qui formait environ le un tiers. Dans la première chambre, il y avait la table des pains à droite, ce qui représentait nourriture pour notre âme, pour le peuple de Dieu, ce qui représente pour nous aujourd'hui Jésus qui est le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle. Et à gauche, il y avait un chandelier avec sept branches qui éclairait le temple. Et c'était la seule source de lumière qu'il y avait dans le temple qui devait être allumée continuellement. Et cette lumière représente la lumière que Dieu veut apporter dans votre vie, dans ma vie. Sa lumière de vie. Et la parole nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et au centre, vers le fond, juste devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, on avait l'autel des parfums, où l'encens devait être brûlé matin et soir, symbolisant encore une fois le grand prêtre intercédant pour nous, son peuple. Mais aussi, le peuple communiant avec Dieu le Père à travers leurs prières et leurs intercessions. Maintenant, de l'autre côté du rideau, dans le lieu très saint, il y avait le meuble qui était la principale meuble du tabernacle ou de la tente de la rencontre. Ce meuble était un coffre rectangulaire en bois couvert d'or, appelé l'arche de l'Alliance ou l'arche du témoignage. Et à l'intérieur de ce meuble, il y avait deux tablettes de la loi de Dieu qui, en fait, condamnaient à mort tout pécheur et l'excluaient de la présence de Dieu. Mais il ne faut pas arrêter là. Sur l'arche, il y avait aussi un couvert en or avec deux chérubins, qui deux anges majestueux, qui étaient aussi en or, façonnés chaque bord de ce couvert, qui était appelé le propitiatoire ou en anglais le mercy seat. Je trouve que des fois en anglais, on a des expressions qui nous parlent plus qu'un propitiatoire. Mais le mercy seat, c'est un couvert où ce que la miséricorde de Dieu était offerte aux hommes. Sur ce couvert, ces deux chérubins étaient un de chaque côté, façonnés là, et puis ils regardaient vers le couvert. Puis en dessous, c'était la loi divine de Dieu sur ces deux tablettes. Mais ce qui est aussi extraordinaire et beau, c'est que lorsque Dieu a dû chasser Adam et Ève de sa présence, du paradis terrestre, Dieu a mis des chérubins à l'entrée du jardin avec un épée flamboyant pour empêcher quiconque reviendrait à ce jardin pour manger de l'arbre de vie. Mais ici, ces deux chérubins n'ont pas une épée flamboyante. Ils ne sont pas armés. Mais ils regardent sur le couvert. Ils regardent sur le couvert de Seat of Mercy ou le couvert du propitiatoire. Puis on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette meuble-là était là? Bien, une fois par année, au grand jour de l'expiation, qui était une cérémonie, une fête qui était la plus solennelle en Israël, ou la fête du grand pardon, le grand prêtre prenait deux boucs. Et puis à l'entrée du tabernacle, ou dans la cour du tabernacle, là où était l'autel, un de ces boucs était sacrifié pour le péché du peuple. Et seulement une fois par année, le grand prêtre pouvait rentrer dans le lieu très saint, l'autre bord du rideau, là où habitait la présence de Dieu. Et là, il prenait le sang de ce bouc qui répondait pour les péchés du peuple. Il aspergeait sur le couvert de l'Arche de l'Alliance le sang du bouc. Et puis, le deuxième bouc, le grand prêtre confessait les péchés du peuple en mettant ses mains sur la tête du bouc. Puis ce bouc était transporté dans le désert, chassé pour ne plus jamais être retrouvé. Et puis la symbolisation de ce rite était que par le sang de cet agneau, les péchés étaient couverts. Le péché était, justice était faite. Puis le péché pardonné et même oublié pour ne plus jamais revenir dans la pensée de Dieu. Et à chaque année, une fois par année, le grand prêtre opérait ce sacrifice, le jour du grand pardon. Cette cérémonie démontrait le sérieux du péché devant Dieu, et de l'autre côté, Dieu démontrait qu'il pourvoyait un moyen où le péché pouvait être pardonné et même oublié. Autour de la tente, il y avait aussi une cour extérieure qu'on appelle le parvis. Et alors, cette cour, ce parvis est entouré d'une clôture, et il y avait juste une entrée. On pouvait rentrer que par la porte, qui symbolise encore Christ, qui est le seul par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Et puis l'autre bord de la porte, il y avait l'autel. Et c'est à cet autel que les animaux étaient sacrifiés, que le sang était répandu pour les péchés du peuple. Et puis ensuite, il y avait un peu plus loin le bassin. J'ai oublié le mot, le bassin, il y a un autre mot pour ça, la cuve. C'est ça, la cuve qui était remplie d'eau, où les prêtres devaient se purifier continuellement pour le service de Dieu. Quand la tente fut terminée et que tout fut installé et consacré selon les instructions que Dieu avait transmises à Moïse, la gloire de Dieu vint et remplit la tente. Il y avait une colonne de nuée qui était sur cette tente durant le jour, et une colonne de feu qui était sur cette tente durant la nuit. Et lorsque cette colonne demeurait à cet endroit, la tente était établie là, cette tente de rencontre où Dieu habitait au milieu de son peuple. Et lorsque Dieu disait, c'est le temps de partir vers le pays promis, la colonne s'élevait et puis les Lévites, chacun dans leur famille, avaient des responsabilités et la tente était pliée et on pactait bagages pour aller là où Dieu était pour nous emporter. Comme Dieu est saint, éternel, l'auteur de la vie, parfait, juste, bon, fidèle et amour, et sans péché, pour que son peuple ait ce privilège de vivre et de participer à sa vie, de participer à sa présence, le peuple devait rechercher également à vivre dans la sainteté, d'être séparé du péché. Et c'est pour ça que Dieu a donné à son peuple des ordonnances morales, des ordonnances civiles et sociales, cérémoniales, remplies de rites qui mettaient un emphase sur le besoin de vivre dans la pureté et dans la sainteté, étant dans la présence de Dieu. Vous savez, le péché apporte toujours le malheur, la corruption, la souffrance. Le péché peut paraître un bonbon, quelque chose de délicieux, même le péché peut paraître des fois une certaine liberté, très attrayant. Mais le péché apporte toujours la mort. Le plaisir est toujours très vite consumé. Et puis vient le malheur qui suit. Dieu veut que son peuple puisse vivre de sa vie, vivre de son abondante vie. Et Dieu voulait que son peuple puisse vivre à ses côtés pour avoir cette rencontre avec lui. Rendu dans le pays promis, le roi Salomon est celui qui a construit un temple, un remplacement pour la tente de la rencontre, appelé un temple, et puis il l'a construit un peu sur le même plan que le tabernacle, mais beaucoup plus grand que le tabernacle. Un coup que ce temple a été aussi construit et puis qui a été consacré, la gloire de Dieu est descendue aussi et remplit ce temple de sa gloire. Et les gens ont tombé devant le temple sur leur face et ils ont adoré Dieu. Et bientôt, le peuple a délaissé leur amour envers Dieu. Bientôt, les traditions ou les pratiques, les cérémonies, les offrandes sont devenues que des symboles religieux, que des symboles traditionnels. Et le peuple s'est tranquillement détourné de Dieu et s'est tourné vers les idoles du peuple qui les entourait, vers les faux dieux que le peuple adorait. Ce qui a amené la gloire de Dieu de quitter le temple. Dieu a dit quitter son temple, et même que Dieu a dû apporter une punition à son peuple par les ennemis des Babyloniens qui sont venus détruire complètement le temple et qui ont emmené son peuple prisonnier en Babylone. C'est là qu'ils ont demeuré pour
70
ans, exactement. Mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple, ni son plan pour restaurer les hommes à lui-même. Environ 500 ans plus tard, par le miracle de Dieu, une vierge a donné naissance à un fils. Et la parole nous a dit à travers que ce fils était nommé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et cette fois, Dieu est venu, non dans une tente faite de main d'homme, mais Dieu est venu dans un corps humain pour vivre parmi les hommes. Parce que Dieu veut vivre parmi son peuple, parce que Dieu veut vivre parmi nous, parce que Dieu s'intéresse à vous et à moi. Dieu s'est incarné dans un corps d'homme pour marcher parmi nous et pour se faire connaître parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que nous soyons à lui, pour que nous puissions jouir de sa vie. Jean 1, 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Durant que Jésus était sur la terre, il y avait en place un deuxième temple qui a été bâti lorsque le peuple est retourné dans son pays après la captivité et qui avait été aussi rénové par le roi Hérode. Mais encore une fois, le peuple de Dieu est éloigné de Dieu. Par la majorité, des gens l'adoraient, mais leur adoration n'était qu'une forme religieuse qui était devenue qu'une tradition. Jésus a pu répéter les paroles du prophète Ésaïe en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ce que Dieu désire, frères et sœurs, c'est votre cœur, c'est mon cœur. C'est de pouvoir avoir ce temps de communion avec lui. C'est dans l'Évangile de Jean qu'on a le récit au chapitre 2, verset 13 à 21. On nous dit « La porte des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, ils chassèrent tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Ils dispersaient la monnaie des changeurs et renversaient la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus était ce tabernacle. Jésus était ce temple où Dieu résidait dans ce monde. Et vous pouvez imaginer les disciples, des gens de tout statut social, pas des gens qui avaient été à l'école, pas des gens qui avaient des diplômes pour être sacrificateurs, pour être lévites, pour être des spécialistes de la loi, mais des gens normaux comme vous et moi. Dieu les choisit, Jésus les choisit pour être ses disciples, et ses disciples ont marché avec Jésus, avec Dieu, qui était présent dans ce corps d'homme. Imaginez ce privilège de pouvoir marcher avec Jésus. Imaginez maintenant le choc. Lorsque Jésus a commencé à les préparer pour leur parler de sa crucifixion, et qui ensuite était pour les quitter, pour retourner vers son Père. On lit ça au chapitre 16, versets 5 à 7. Excusez, j'ai de la difficulté ce matin avec mes lectures. Jean 16, 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. En fait, le Seigneur est en train de dire à ses disciples que c'était mieux pour lui de mourir sur la croix, de retourner à son Père, pour que ses disciples puissent maintenant avoir sa personne ou la présence de Dieu par l'Esprit Saint dans leur cœur. Durant la vie terrestre du Seigneur Jésus, Dieu était présent, mais Dieu était présent à l'extérieur d'eux. Dieu était présent au milieu d'eux. Mais Dieu dit quelque chose encore, Jésus a dit quelque chose encore beaucoup mieux s'en vient. Le jour vient où je vais pouvoir habiter en vous. Ma présence va maintenant être en vous et vous pourrez avoir communion avec moi partout où vous irez. Jésus étant l'agneau de Dieu, venu pour nous accorder le pardon pour nos péchés et nous réconcilier avec Dieu dans une parfaite soumission au Père et par amour pour le monde, s'est offert pour être cloué sur une croix. Il a pris sur lui nos péchés et il a subi, pris sur lui la colère de Dieu comme substitut à notre place. Après qu'il eut souffert et payé la dette de nos péchés, le Seigneur a déclaré « Tout est accompli ». Et il rendit l'esprit. Le « Tout est accompli » était une œuvre glorieuse. C'était la victoire pour vous et moi. C'est à ce moment que le voile du temple s'est déchiré en deux. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, partir d'en haut, en bas. La parole de Dieu dit avec cet événement, il y a aussi des grands tremblements de terre et des roches qui se fendirent. Ce rideau fut déchiré par la main de Dieu même. Nous invitons maintenant à pouvoir rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, pour avoir communion avec lui. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous à la croix, nous déclare aujourd'hui juste, justifié et juste, nous donnant le droit maintenant de rentrer dans la présence même de la sainteté de Dieu. Mais voyez-vous, il y a plus que la justification. Bien que d'être pardonné et déclaré juste, pour avoir notre place garantie au ciel, est quelque chose de magnifique et une source d'une grande joie, il y a plus que ça à la vie chrétienne. Si vous vous êtes confié dans le Seigneur Jésus, la présence de Dieu est maintenant en vous, dans vos cœurs. Vous êtes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la parole nous déclare dans le texte qu'on a commencé en 1 Corinthiens 6. Paul continue en disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si vous vous êtes tourné à Jésus-Christ, pour recevoir son pardon, Dieu aujourd'hui habite dans votre cœur. Et sa présence en vous et sa présence en moi devrait être ce qui est de plus important au monde. Parce que c'est là que nous pouvons avoir cette rencontre avec Dieu. Oui, on vient ensemble pour avoir une rencontre avec Dieu, pour pouvoir s'encourager les uns les autres et la parole de Dieu nous dit que l'Église est le temple de Dieu. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous retournez avec la présence de Dieu dans vos cœurs. Parce que vous êtes aujourd'hui le temple de Dieu, le tabernacle qui tient la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans votre cœur. Et ça, c'est le plus beau et le plus grand des miracles. Ce qui souligne ce qui souligne, frères et sœurs, l'importance pour vous et moi de nourrir cette relation avec Dieu, de prendre du temps avec Dieu pour le connaître, pour le découvrir, de commencer votre journée en prenant un temps à part pour vous placer devant lui, parce que l'attente de la rencontre n'est pas ici à la chapelle seulement. Dieu désire votre cœur. Dieu désire vous faire connaître sa vie. Dieu désire partager son abondance, ses richesses. Elles sont en vous par son esprit. Et Dieu désire ces temps de rencontre avec vous, des temps que vous placez à part, vous mettez à part pour vous tourner vers lui en prière, pour lui parler, pour ouvrir sa parole et l'entendre vous déclarer ses promesses par son esprit. Peut-être que des fois on peut se sentir accusé. On peut se sentir peut-être où moi, je suis content d'avoir une place dans le ciel. Si tu connaissais mon passé, si tu connaissais ma semaine, tu saurais que Dieu n'est peut-être pas trop intéressé à ce que je passe trop de temps avec lui. De voir que ma place est dans le ciel, je vais être bien correct avec ça. Je vais être super heureux avec ça. Mais frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est là où il faut retourner souvent à la croix pour nous rappeler l'acte, la transaction de la justification que nous avons reçue en Jésus-Christ. Votre péché a été complètement payé. Christ a pris sur lui votre péché et la dette a été payée. Si Dieu aurait une dent contre vous pour votre péché que vous avez commis, Dieu serait injuste. Parce que quelqu'un a déjà payé. La dette est payée. Et non seulement ça, Dieu vous déclare juste. Oui, on ne vit pas encore cette justice à la perfection, mais Dieu vous déclare juste. Dieu a mis sur vous, d'une façon légale, la justice, parfaite obéissance de Christ. Et il vous considère comme fils et fille. Et il veut votre attention. Il veut votre cœur. Il veut vous entendre. Il veut que vous vous approchiez de lui. Il veut que vous bâtissiez votre vie sur lui. Que vous vous éloigniez du péché puis que vous vous approchiez de lui pour trouver votre bien en lui. Galates 3:26 nous dit ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Romains 8, 15 à 16 nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père, Papa. L'Esprit lui-même rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Frères et sœurs, il ne faut pas laisser Satan, le menteur décevant, nous enlever cette relation, ce cadeau que nous avons reçu, ce certificat qui nous garantit que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu et vivre de sa plénitude, de sa grâce, de son amour. Il faut se rappeler souvent peut-être de la parabole du fils perdu. Vous vous rappelez du fils perdu qui a demandé son héritage avant que son père meure, qu'elle insulte, pour pouvoir partir, puis aller avoir du plaisir. Son père lui a donné son héritage, puis il est parti. Puis la parole nous dit, il est parti dépenser son héritage dans une vie de débauche. Et quand il est arrivé à la fin de lui-même, où il n'y avait rien à manger, il ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. La parole nous dit, il est revenu à lui-même. Il est rentré en lui-même. Puis il dit, la vie était bien meilleure dans la compagnie de mon père. Et je vais retourner. Et je vais retourner pour aller le voir. Il s'est levé pour aller vers son père. Et la parole nous dit que quand son père l'a vu arriver de loin, son père a parti à course vers son fils pour l'embrasser, pour le prendre dans ses bras. Il lui dit, mon fils. Puis le fils a dit, très naturellement, père, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Fais de moi ton serviteur. Et malheureusement, c'est souvent là que nous vivons notre vie chrétienne. Dans cette crainte, dans cette culpabilité. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi simplement comme ton serviteur. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Mère et sœur, ce que Dieu veut, c'est votre cœur. C'est que vous mettez toute votre importance à le découvrir, à le connaître. Si vous avez placé votre foi en lui. Si vous n'avez pas passé par la justification, par la croix, vous n'avez pas de communion avec Dieu. Le rideau est toujours fermé. Seule la foi dans le sang versé de Jésus-Christ vous accorde cette grâce, ce cadeau que Dieu désire vous donner absolument. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'heure que vous puissiez demander au Seigneur Jésus, « Seigneur, pardonne mon péché. Merci d'être mort pour moi à la croix. » Viens dans ma vie. Je place ma confiance en toi. Je veux te pardonner. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, il y a plus que la justification. Il y a une relation avec Dieu. Dieu est maintenant dans votre vie. Puis le grand chant de victoire. Lorsqu'on lit le dernier chapitre de l'Apocalypse, Dieu dit, enfin, enfin, Dieu vit aujourd'hui, maintenant, dans le ciel avec les hommes qu'il a rachetés. C'est son désir, c'est votre cœur, mon cœur, que nous faisions de lui notre vie et voir ses bénédictions. Remplir nos cœurs, remplir, épanouir nos vies. Prions. Seigneur, on veut dire merci. On veut dire merci au grand Dieu pour ce grand salut, cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour déployé à la croix pour nous pardonner. Seigneur, puisses-tu nous accorder de pouvoir croire, profondément croire dans l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Cette œuvre qui nous libère de notre passé pour que nous puissions vivre comme fils et filles du roi des rois. Pour que ta gloire, ta présence puisse transformer nos cœurs, transformer nos vies, afin que tu puisses briller à travers nous. Et attirer encore d'autres à toi. Seigneur, remplis nos cœurs, conduis-nous dans tes vérités. Merci, Seigneur Jésus. Amen.